Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de te retrouver pour un petit peu ce qui va être le deuxième épisode de ma série Bilan 2024 et préparation de l'année 2025. Et aujourd'hui, je voulais aborder avec toi les red flags de mon année 2024. Alors, qu'est-ce que j'appelle des red flags? C'est un petit peu comme des signaux d'alerte sur l'année qui ont parfois été difficiles ou désagréables à affronter, hein, soyons honnêtes, mais aussi qui m'ont permis de prendre des décisions fortes ou de poser des nouvelles bases pour 2025. En fait, je crois que chaque erreur ou chaque difficulté qu'on rencontre peut aussi être vue comme une opportunité. En fait, j'ai l'impression que un petit peu les difficultés ou les erreurs qu'on rencontre, c'est des opportunités de réajuster notre trajectoire. Voilà, j'espère que toi aussi, ça pourra t'aider à nourrir des réflexions en ce sens pour ton business. Et puis, pourquoi pas, hein, même si effectivement, on se forge aussi dans l'entrepreneuriat par les hauts, les bas, les erreurs, etc. Mais enfin, si toutefois, il y a certaines choses que tu peux anticiper, qui peuvent t'amener des points de réflexion et du coup te permettre à toi par la suite d'être plus vigilante ou de faire autrement, et ben écoute, c'est bien aussi hein, quand on peut gagner du temps grâce à l'expérience des autres. Donc les red flags que je vais te partager, il y en a 6. Il y aura un red flag autour des finances, notamment, hein, je précise. Moi, je suis en SARL, donc c'est aussi lié à ce statut. Un red flag sur la délégation, un red flag plus personnel, un red flag sur l'organisation, un red flag sur les offres, mes offres, et un red flag sur la création de contenu. Voilà, comme ça, tu sais un petit peu où on va. Avant de démarrer cet épisode, je me permets de faire ma propre publicité dans cet épisode. Si tu écoutes cet épisode ce lundi 20, ce lundi 20 janvier 2025 ou même encore mardi 21 janvier 2025, j'ai une vente flash de mon programme Yogi Bizline, donc qui est un programme à la base qui est là pour t'aider à ajouter une offre en ligne à ton activité. Donc ajouter une offre en ligne à ton activité, c'est à la fois construire les bases solides d'une activité en ligne, c'est aussi savoir créer une communauté qui va être intéressée par ce que tu partages et par la suite rejoindre tes offres. Et c'est aussi apprendre évidemment à créer une offre de A à Z, que ce soit dans son contenu, dans son message, dans la manière dont on va en parler, mais aussi de manière technique, hein. Et puis c'est aussi et surtout apprendre à la lancer, apprendre à la promouvoir, apprendre à la vendre. Et ensuite, apprendre à générer de l'argent avec cette offre, comment je fais dans le temps pour continuer à la vendre et peut-être aussi pour mettre en place des systèmes plus evergreen pour faire tourner cette offre en continu et toute l'année. Donc c'est tout ça que je t'apprends dans mon programme signature et historique Yogi Bizline. Peut-être que tu n'es pas sans savoir justement que c'est la dernière fois que je le propose avec du coaching collectif et avec la possibilité de rejoindre la communauté. Donc effectivement, comme j'avais du monde qui me sollicitait pour rejoindre l'offre et du monde sur la liste d'attente, j'ai décidé d'ouvrir une vente flash pendant 4 jours seulement. Donc la vente flash a commencé le 18 janvier 2025 et elle se termine le 21 janvier à minuit. C'est donc ta dernière chance si tu veux rejoindre Yogi Bizline pour y accéder ensuite derrière un avis. Mais en fait, c'est la dernière chance pour rejoindre avec mon accompagnement, c'est-à-dire avec 12 séances de coaching collectif pendant lesquelles je vais pouvoir te faire des retours personnalisés, des feedbacks sur ton travail, sur ton plan d'action, faire des relectures ou des audits éventuellement aussi de tes différents projets, de tes différentes ressources type compte Instagram, page de vente, etc. Donc voilà, c'est le moment. Si tu veux nous rejoindre, je vais pas en parler plus que ça. Tu peux retrouver toutes les informations dans la description de cet épisode. Il y a un lien qui t'amène directement du coup vers le contenu du programme avec tous les détails dont tu as besoin pour prendre ta décision. Je te rappelle juste donc que c'est une offre éphémère qui s'arrête pour toujours, j'ai envie de dire, qui ne reviendra jamais et donc qui s'arrête mardi 21 janvier. On y va. Donc le red flag numéro 1 de mon année, eh bien j'ai été Drainée, mais alors complètement drainée. Je peux même te dire, sans spoiler, mais que ça aurait pu me faire prendre la décision de tout arrêter. Quand je dis tout arrêter, c'est vraiment quitter le statut d'entrepreneur, quitter le statut juridique de la SARL, parce que j'ai vraiment été drainée cette année par un mauvais suivi comptable et financier. Donc, j'ai déjà démarré 2024 comme ça, c'est-à-dire dans un grand flou comptable et financier. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je suis passée en SARL, donc j'étais accompagnée par une entreprise comptable, mais justement, j'étais pas forcément très bien accompagnée, voire même mal accompagnée. Donc j'ai décidé en fin d'année dernière de changer d'expert comptable et in fine il s'est trouvé que le nouvel expert comptable malheureusement c'était encore pire que le précédent. Ce qui du coup dès le début d'année a généré déjà pour moi un certain stress de voir en fait que voilà, j'avais encore pas les bons interlocuteurs, les réponses à mes questions, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas faites, qu'il fallait vraiment tout contrôler, checker, passer derrière eux, etc. Et aussi, en parallèle de ça, j'étais accompagnée par une directrice, par une DAF en fait, hein, quelqu'un qui m'aide à piloter ma trésorerie en fait, qui m'aide à piloter mes finances, mais plus aussi dans le sens. Donc il y a une partie reporting, suivi de dashboard, et l'idée c'est de travailler sur du prévisionnel, de travailler sur des scénarios possibles, et d'anticiper aussi tout ce qui va être charges, dépenses dans l'année, etc. Pour finalement derrière normalement mieux piloter stratégiquement les actions commerciales. Donc ça devient nécessaire à un moment donné quand on atteint certains niveaux de chiffre d'affaires parce que il y a des charges en conséquence aussi. Il y a un gros poids et une grosse partie aussi d'impôts, de choses comme ça sur lesquelles il faut faire des arbitrages. Il faut aussi penser à ce moment-là à comment je gère ma rémunération, qu'est-ce que je laisse en trésor, qu'est-ce que je prends en rémunération, qu'est-ce que je prends en dividende, etc. Et en fait, tout ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend souvent ni à l'école, ni dans les formations business quand on devient entrepreneur. Donc moi, si je rappelle un petit peu le contexte de départ d'ailleurs, je vous ai toujours invité depuis le début à déléguer le suivi comptable de votre entreprise parce que c'est pas forcément notre zone de génie quand on démarre et puis il vaut mieux se concentrer effectivement sur communiquer pour acquérir des prospects, créer une communauté et vendre ses offres. C'est quand même un petit peu le nerf de la guerre et la priorité quand on est en business. Et sauf qu'en fait, je suis pas sûre que ce soit un si bon conseil que ça. Parce que finalement, moi, le fait d'avoir délégué cette partie dès le début de mon entreprise, en fait, et aussi de continuer finalement cette spirale de la délégation de ma gestion comptable et financière au fur et à mesure que j'ai grandi, ça fait que depuis le début, à force de tout confier et tout déléguer, je me suis retrouvée déconnectée et aussi en totale non-maîtrise en fait de ces aspects-là. Du coup, vraiment perdu dans tout ce qui doit être régularisation de TVA, d'URSSAF, de CFE, d'impôt sur le revenu, les démarches obligatoires, les pourcentages de prélèvement, où est-ce que je trouve les informations, les mots de passe pour accéder à tous mes différents comptes, la gestion de mes factures, les erreurs qu'il peut y avoir dans le suivi des factures, d'impayés ou autre chose comme ça. Bref, je me suis retrouvée dans un gros flou, d'un coup, en fait, j'ai pris la mesure et la proportion de ce que ça voulait dire, une entreprise qui génère du chiffre. Et puis, derrière, en fait, ça vient pas s'empiler sur un compte. Et puis, on se dit pas, oh, super, j'ai de l'argent, ça tourne bien, j'ai atteint mes objectifs de revenus, de chiffre d'affaires, etc. C'est un petit peu plus complexe que ça. Donc du coup, j'ai démarré l'année vraiment et honnêtement, c'est quelque chose qui m'a suivi toute l'année et en fait, ça m'a tellement drainée parce que même si je suis consciente que j'avais pas tout entre les mains parce que bah voilà, les experts comptables, en fait, on peut pas faire le travail à leur place et quand on n'arrive pas à les contacter et quand ils nous rappellent pas et quand ils donnent pas signe de vie pendant plus de 2 mois en plein été, etc. Bah malheureusement, c'est des choses. À un moment donné, j'ai quand même été obligée de lâcher en me disant la seule chose que je peux faire, c'est changer encore une fois de comptable, c'est accepter que bah, je vais probablement perdre de l'argent cette année à cause de ça, que je perds du temps à cause de ça, mais aussi évidemment à un moment donné, je me suis dit bah voilà, il faut que je reprenne les choses en main. Mais ce qui s'est passé du coup, c'est que voilà, j'ai cumulé deux comptables incompétents ou en tout cas qu'on pas répondu voilà à ce que j'attendais en termes de suivi, de pilotage, d'accompagnement, de deadline, etc. Alors l'erreur que j'ai peut-être faite, hein, c'est qu'à chaque fois que à chaque fois je m'en suis rendu compte en fait au bout de 2-3 mois. Mais en général, quand on signe avec un comptable, on s'engage pour l'année. C'est difficile quand même d'avoir des recours face à ces gens-là. Et peut-être que j'aurais dû agir plus tôt pour les remplacer. Mais bon, déjà, c'est sportif de changer de comptable tous les ans. J'en suis du coup à deux comptables, enfin là, du coup, à trois comptables, puisque j'ai pris un nouveau cabinet d'experts comptables. Donc voilà, est-ce que j'ai laissé traîner par peur de mal faire? Est-ce que j'ai laissé par flemme, traîner par flemme de recommencer le processus? Ou est-ce que j'ai laissé traîner parce que finalement j'étais aussi consciente que j'avais pas beaucoup d'actions possibles pour me retourner contre eux au-delà de attendre l'engagement, la fin de l'engagement de l'année? En tout cas, ce qui a suivi, ce que ça a généré tout ça, c'est des déclarations de TVA en retard, donc évidemment des courriers pas très sympathiques, des surprises de l'URSSAF, un flou complet au niveau de tout ce qui était prélèvement des impôts sur les sociétés. J'ai aussi du coup, lié au changement de DAF, eu une passation sincèrement qui a été un petit peu trop longue à mon goût sur le début de l'année et donc ça m'a obligée aussi à ralentir ma prise de décision stratégique parce que quand à un moment donné moi je suis dans le flou financier, c'est quand même les finances aussi qui drive les data, qui drive en fait les actions que je vais faire. Je suis dans ma manière de gérer mon business. Je suis minimaliste en ce sens que je vais pas aller faire plein d'actions dans tous les sens. Si à un moment donné, en fait, la trésorerie me convient, une action commerciale suffit à atteindre mes objectifs de revenus. En fait, je suis pas dans la recherche de toujours plus dans ma manière de fonctionner. Je suis dans la recherche d'atteindre les objectifs que je me suis fixés qui correspondent à un quotidien en fait qui pour moi me permet d'être libre, d'avoir du temps pour moi, d'être heureuse, de pouvoir voyager, de payer ce que j'ai à payer, etc. Typiquement, moi ça m'intéresse pas de faire toujours plus, de viser la croissance, le million ou je ne sais quoi. Ce qui m'intéresse, c'est d'atteindre le budget que je me suis défini pour mon quotidien, les projets que j'ai envie de faire et qui correspond derrière à un bel équilibre de vie hein, pour moi. Donc du coup, quand on décide de fonctionner comme ça, bah forcément, c'est toujours important de suivre ces datas financières parce que on va pas aller créer une nouvelle offre ou faire un nouveau lancement, etc. S'il y en a pas besoin. Si 2 lancements par an suffisent pour atteindre mes objectifs, je vais pas me cramer ou me dire je vais lancer un nouveau produit tous les mois ou je vais faire 4 lancements dans l'année. Donc du coup, le fait de pas savoir où j'en étais financièrement, de pas pouvoir faire de scénarii, de pas savoir ce qu'allait m'attendre, ce qu'allait être prélevé, ce qu'allait me tomber dessus. Finalement, ça a ralenti ma prise de décision stratégique. Donc finalement, je me suis retrouvée dans un chaos total avec plusieurs interlocuteurs aussi finalement dans mes finances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais mon assistante administrative et comptable d'un côté qui faisait des choses, qui s'occupait de certaines choses. J'avais ma DAF, j'avais les experts comptables. J'avais l'ancien cabinet avec lequel il fallait toujours revenir chercher des informations, etc. Donc finalement, je payais beaucoup de monde pour un résultat pas terrible puisque j'étais dans le flou total. Beaucoup de choses faites en doublon, beaucoup de flou stratégique. J'avais jamais les bons chiffres au bon moment. Et puis la résultante de ça aussi, c'est que au terme d'une année comptable, quand on arrive à un bilan comptable, c'est le moment d'arbitrer en fait certaines décisions par rapport à ce qu'on va faire justement en termes de dividendes, en termes de placement, en termes de plan d'épargne retraite et aussi bah, pour essayer de manager un petit peu l'impôt sur les sociétés qu'on va payer. Donc selon en fait hein, ce qu'on dépense, ce qu'on prend, ce qu'on place, etc., et ben, on se retrouve à payer un impôt qui est différent. Eh ben ça, c'est quelque chose, c'est un rendez-vous en fait que je n'ai pas pu faire en fin d'année. Hein. C'est-à-dire que clairement, mes experts comptables, j'ai changé en fait de chargé de compte 4 fois dans l'année. Voilà, je vais pas forcément rentrer dans les détails. Alors, je vais quand même vous dire que c'est l'entreprise Keobiz pour surtout vous déconseiller de travailler avec eux. Mais en gros, voilà, c'est des gens qui quand on a quelqu'un, quand on suit le compte de quelqu'un qui est en SARL, c'est évident qu'il faut un rendez-vous d'arbitrage pour le bilan de fin d'année, etc. Et donc, c'est des rendez-vous que j'ai pas eu, donc des actions que j'ai pas pu faire. Et donc, évidemment, ça va me coûter de l'argent. Et donc, évidemment, j'ai travaillé cette année. Et j'ai généré du chiffre d'affaires qui, au lieu finalement de finir dans mes poches ou dans des investissements ou dans la préparation de mon futur ou autre, bah, va se retrouver finalement chez les impôts parce que ça n'aura pas été bien arbitré. Et sans les informations comptables hein, d'un expert comptable, on ne peut pas soi-même, ni même quelqu'un du métier, en fait, s'il n'a pas toutes vos informations, s'il n'a pas le dossier entre les mains. Donc, bien que j'ai changé d'expert comptable en fin d'année, bah, ma nouvelle expert comptable, elle n'a pas pu m'aider là-dessus parce qu'elle n'a pas toutes les informations. Donc, vous imaginez bien que ça génère quand même un certain stress. Il y a un peu aussi le sentiment de travailler, pas pour rien, mais en fait de se dire, bah voilà, je vais même pas avoir la main sur le pilotage de mes finances en fin d'année. Ça a engendré vraiment une grosse charge mentale pour moi, comme je vous dis, au point que j'avais plus l'énergie non plus pour piloter mon business correctement. J'ai eu envie de tout arrêter à certains moments en me disant, mais à quoi bon être entrepreneur en France? À quoi bon, voilà, si j'étais pas en SARL et que je me contentais d'un petit chiffre d'affaires, voilà, et ben au moins j'aurais pas toute cette lourdeur et tout ce chaos. Donc vraiment très difficile cette impression de perdre le contrôle, d'être noyé, d'avoir peur un petit peu aussi de ce qui pourrait m'arriver, me tomber dessus, que d'un seul coup j'ai une facture énorme à payer de régularisation ou autre. Donc, la leçon de cet épisode vraiment douloureux pour moi cette année, et puis en fait c'est pas que cette année, c'est un peu ça le problème, c'est que vraiment ça dure un peu depuis le début de mon aventure entrepreneuriale parce que j'ai eu des mauvaises surprises déjà quand je suis passée à la TVA, j'ai eu des mauvaises surprises quand j'ai atteint le palier de chiffre d'affaires de l'auto-entreprise. Voilà, et j'ai pas été conseillée à ce moment-là. J'ai eu un flou pendant quelques mois avant de passer en SARL. J'ai eu, voilà, tout depuis le début est assez lourd en la matière. Il faut dire aussi que pour couronner le tout, j'ai déménagé régulièrement, j'ai dû du coup réajuster des statuts, j'avais été mal conseillée la première fois pour mes statuts, donc j'avais une activité de formatrice qui était déclarée mais sans être formatrice officiellement, entre guillemets. Donc du coup, il a fallu aussi revoir ça. Enfin voilà, depuis le début, il y a tout qui merde, quoi, en fait, hein. Donc, je dirais que la leçon que j'ai pu retenir de ça, quand même, au niveau des finances, c'est que déléguer, eh bien, ça veut pas dire se déresponsabiliser. Alors, je le savais pourtant, mais je sais pas. Sur cet aspect-là, j'aurais bien aimé l'ignorer ou que ça se passe autrement, sur l'aspect comptable et financier. Mais en fait, bah non, déléguer, ça ne veut pas dire déresponsabiliser. Donc, les actions concrètes que j'ai prises par rapport à ça, ce sont des décisions radicales, hein, puisque j'ai pris la décision déjà de me séparer de ma DAF dans un premier temps, mais aussi de mon assistante comptable pour reprendre vraiment le contrôle total de mes finances, de la moindre facture au suivi finalement plus stratégique. Je reprends tout de A à Z et de zéro. Donc autant vous dire que j'ai prévu des journées entières sur lesquelles je devrais être concentrée là-dessus, hein, sur ma routine finance et comptable. Mais voilà, je sais que ça va me prendre du temps, mais je sais aussi qu'il n'y a rien de plus fort que de maîtriser quelque chose avant éventuellement de le déléguer ou de le redéléguer à nouveau. Et d'ailleurs, j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie pour tout, excepté pour cet aspect comptable depuis que j'ai créé ma société ou mon auto-entreprise même. Et finalement, eh bien, je pense que c'était une grosse erreur de ma part, donc je reviens là-dessus. Et pour bien ancrer ça et pour envoyer des bons signes à l'univers pour qu'il me soutienne, eh bien, dès le 6 janvier, dès le 7 janvier, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, je me suis rendue à Nice et j'ai consacré finalement ma toute première journée de travail de l'année 2025 à comprendre mes chiffres, à comprendre les différents outils, à savoir facturer, à savoir suivre mon dashboard financier, à planifier, voilà, les charges, le prévisionnel, etc. de mon année 2025 et à comprendre et mettre en place en fait une routine hebdomadaire. Et je me suis fait accompagner de ma COO pour ça. C'était d'ailleurs la dernière mission sur laquelle on a travaillé ensemble. Elle m'a créé tout un tableau de bord qui est adapté à mon entreprise, à mon activité, à ma manière de réfléchir, de voir les choses. Donc un tableau de bord finalement beaucoup plus simple que ce que j'avais jusqu'à maintenant. Très clair pour que je puisse piloter à partir de maintenant et à partir de cette année tout ça sereinement. Et j'ai choisi de le faire aussi puisque comme je vais un petit peu volontairement faire de la décroissance cette année et avoir un business model très 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 simple, et bien du coup c'est le bon moment pour moi aussi mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Mon déclic que je pourrais te partager, enfin si tu dois avoir un déclic suite à ce red flag, c'est que personne ne gérera ton argent mieux que toi. Red flag numéro 2, je vais un petit peu rester sur cet aspect de délégation. Je dirais que la délégation pour moi cette année était en fait... je dirais pas que c'était une décision mal alignée parce que je pense qu'elle l'était en début d'année, mais j'ai évolué, j'ai un peu pris une nouvelle direction et envisagé un pivot en cours d'année qui fait que du coup cette délégation est devenue non adaptée et mal alignée pour moi, mais aussi et c'est un petit peu plus sur cet aspect-là que je voulais revenir dans ce red flag numéro 2, c'est une délégation qui a engendré des coûts élevés. J'ai été dépensière, j'ai été trop dépensière. Donc, si je reviens au début de l'année 2024, en fait, en début d'année, je décide de structurer mon business. Pour plusieurs raisons. D'abord, je suis en pleine croissance, je suis en hyper-croissance et en fait, je me dis, si je dois continuer, en fait, dans cette hyper-croissance, je pourrais plus continuer à tout porter toute seule, je pourrais plus continuer à gérer tout moi-même en fait. Il y a un moment donné où effectivement je vais avoir besoin de soutien, je vais avoir besoin de coach, je vais avoir besoin de personnes qui vont pouvoir prendre le relais sur des choses qui sont pas indispensables que moi je fasse. J'avais aussi la volonté de structurer YogiBizLine l'activité de YogiBiz, et donc comme moi mon offre principale c'est YogiBizLine, je parle souvent de YogiBizLine, mais de manière à ce que ça puisse être comme une entité en part entière avec ses équipes, son management, sa chef de projet, son community manager, etc. Dans l'idée de soit moi me déployer sur un autre projet business, tout en restant uniquement la visionnaire pour YogiBiz, voire peut-être la personne qui interviendrait dans les lives, etc. L'image encore, en fait, la créatrice, la fondatrice et la visionnaire, celle qui amène, en fait, la direction où on veut aller. Mais plus du tout être complètement retirée de l'opérationnel et avoir des gens qui font l'opérationnel pour moi. Et de toute façon, structurer YogiBiz en ce sens, c'était aussi préparer éventuellement YogiBiz à la revente, qui était un des projets que j'avais éventuellement donc envisagé en début d'année. Donc voilà, donc il y avait quand même cette idée de continuer à faire de la croissance avec YogiBiz tout en structurant le business. J'avais une trésorerie solide, donc quand on a une trésorerie solide, c'est un peu facile de résoudre chaque problème en achetant des solutions. Et j'ai rapidement en fait délégué, donc je me suis retrouvée à accumuler finalement une équipe coûteuse puisque j'avais donc une coach pour les coachings collectifs de YogiBizLine, j'avais une coach customer care pour gérer les questions dans la communauté de YogiBizLine, donc dans le Discord, j'avais mon assistante donc administrative et comptable, j'avais ma DAF donc pour les finances, j'ai aussi en début d'année délégué tout le community management, donc à savoir la création des posts et la publication sur les réseaux. J'ai en milieu d'année embauché un quelqu'un pour faire mes pubs, une agence de pub. Et j'ai aussi, dans la volonté justement de mettre de la pub, d'accélérer les acquisitions de leads, etc. Et dans cette volonté, hein, probablement de structurer et que ce soit voilà une entité à part entière qui soit pilotée sans forcément mon intervention dans l'opérationnel au quotidien, j'ai pris donc une COO à ce moment-là. Donc, je vous passe les dépenses, mais à coût de 2000 euros pour certains, 1000 et quelques pour d'autres, des enveloppes de 800 pour encore d'autres, etc. Bah, le tout cumulé, ça fait qu'à un moment donné, vous vous retrouvez avec un business qui peut vous coûter voilà 4000, 5000, 6000 par mois. Alors que vous avez encore rien vendu, alors entre guillemets, hein, parce que du coup, moi, j'ai un système qui tourne, des revenus récurrents, etc. Mais bon, ça commence à représenter quand même des coûts importants. Et finalement, petit à petit, ce modèle, ça m'a mis sous pression. Alors évidemment, déjà, il y a le fait que déléguer, ça vient pas forcément libérer beaucoup de temps, surtout le temps de la mise en place. Et puis, il faut quand même être là, puis il faut quand même checker, puis il faut quand même relire, puis il faut quand même faire des allers-retours, et puis il faut quand même tout ça. Donc, déjà, je me suis très vite rendu compte que ça m'allait pas, que coordonner tout ce petit monde, j'en avais pas envie non plus. Mais aussi, à chaque fois qu'on veut prendre une décision, il faut avertir tout le monde, il faut expliquer pourquoi, il faut faire attention effectivement à ce que tout le monde soit au courant, etc. Et ça m'a amené énormément de lourdeur dans quand j'ai envie d'implémenter quelque chose en fait. Et d'ailleurs, je le faisais très mal, hein, de prévenir tout le monde, d'anticiper suffisamment, etc. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai quelque chose qui me vient comme ça, je suis capable de le mettre en place rapidement. Et puis, c'est le jeu, hein, quand on a une entreprise, des équipes, une structure. Je me souviens, c'est aussi ce que j'ai vécu dans mon histoire corporate. Eh ben, c'est un gros bateau. Et le gros bateau, ça bouge pas comme un petit zodiaque, en fait. Hein. Pour faire tourner le gros bateau à droite, ça va être plus long. Il va falloir plus de monde et il faut que tout le monde soit coordonné versus un petit coup à droite pour un zodiaque qui va pivoter tout de suite, quoi. Donc, en fait, c'est ça aussi, avoir une équipe. Et ça, je me suis rendu compte que, donc, d'une part, c'était trop lourd pour moi parce que, et je le rappelle, et je fais un petit peu un lien avec mon human design et donc mon mode de fonctionnement naturel aussi. Moi, j'aime avancer vite. J'aime aussi qu'on me foute la paix et j'aime aussi pas avoir besoin de prévenir la terre entière quand je décide stratégiquement de mettre quelque chose en place. Donc, c'est en ce sens que ça me correspondait pas du tout. Mais ça m'a mis aussi sous pression financière parce que la direction que je prenais, ça coûtait finalement cher. Et donc ensuite, quand on se lève le matin, on se dit « Oh là là, faut payer tout ce petit monde ». Et ça, je me suis dit « Mais attends, c'est pas du tout ce que je voulais, ce modèle avec des charges élevées, avec cette pression, avec ce management ». Donc j'ai vraiment, j'ai compris hein, que je m'étais aussi un petit peu laissée influencer par finalement... Alors, influencer d'une part, mais je rejette pas la faute sur cette influence. Voilà, à un moment donné, quand on est à un certain niveau de chiffre d'affaires et de business, c'est un peu comme on a l'impression que la seule solution pour scaler ou pour aller plus loin, c'est effectivement de déléguer, de mettre en place une équipe, etc. Mais je me suis pas que laissée influencer, j'aime aussi tester les choses. Donc je crois que au fond de moi, j'étais animée par cette envie de tester. Et au fond de moi, j'avais envie quand même de faire ça. J'avais envie d'essayer la pub, j'avais envie de voir ce que ça faisait de peut-être déléguer la gestion de projet, le management d'équipe à une CEO. Je pense que voilà, j'avais vraiment besoin de goûter, de tester à ça, de me dire ok, allons-y, je vais essayer alors de structurer pour voir ce que ça fait de passer ce cap-là dans son business. Résultat, j'ai rapidement vu que c'est une dynamique qui n'était pas du tout alignée pour moi. Et je me suis aussi rendu compte Que du coup, ça correspondait pas à ma définition du succès, du bonheur et à mes objectifs de revenus, en fait, que j'avais pas besoin de mettre en place tout ça. Et puis surtout, c'est vrai aussi hein, que en milieu d'année, j'ai senti que j'allais réajuster quelque chose, que j'allais pivoter, que finalement, j'avais pas envie de mettre autant d'efforts et d'énergie dans la structuration de mon entreprise. Donc j'ai été honnête avec moi-même en me disant, bah ok, ça marche peut-être très bien pour les autres, mais moi, déjà, j'ai envie de probablement changer d'offre principale. Donc, déjà, ça va. C'est comme un peu un redémarrage à zéro. Donc, le fait que je voulais prendre une nouvelle direction, réajuster, pivoter, du coup, tout ce que j'étais en train de mettre en place, finalement, ça faisait plus vraiment sens. Par ailleurs, récemment, j'ai eu un moment marquant avec une de mes consoeurs que j'ai accompagnée en immersion, mais qui a un peu un business similaire au mien. Et puis, voilà, évidemment, on a regardé aussi ses dépenses, son budget, etc. Parce qu'il y avait quelques petites coupes peut-être à faire. Ou en tout cas, l'idée, c'était de voir si tout ça, c'était bien géré. Et en fait, c'est une entrepreneure qui fonctionne aussi beaucoup avec de la pub payante. C'est un gros, gros, gros budget, hein. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois qui sont injectés en pub. Et alors, c'est rentable parce que, en fait, oui, ça rapporte, mais ça rapporte parce que derrière, elle est aussi là. En fait, la pub est injectée sur des systèmes de webinaires ou de choses comme ça. Donc ça fonctionne parce que quelque part derrière elle anime ça. Donc certes c'est rentable in fine, hein, mais elle a avoué, que c'est aussi une pression constante. C'est-à-dire que il faut alimenter cette machine sans arrêt pour maintenir les résultats. Si à un moment donné je décide d'arrêter d'alimenter cette machine, je décide de me mettre au vert pendant 3 mois, je décide de faire complètement autre chose, etc. Bien du coup ça plante le business en fait. Et là, j'ai aussi eu un déclic en entendant ça, ou plutôt j'ai été réassurée dans la conviction que je m'étais déjà forgée, que c'est pas du tout cette dynamique-là que je veux pour mon business. C'est pas du tout pour ça que j'ai créé mon business. Moi, j'ai créé mon business pour prendre mon ordinateur sous le bras et travailler de n'importe où dans le monde. J'ai créé mon business pour être libre et pour ne pas avoir de personnes à gérer, la responsabilité d'autres prestataires, enfin d'autres personnes dans mon entreprise, pour ne pas me réveiller le matin en me disant bah j'ai déjà tout ce petit monde là à payer, ne pas avoir cette lourdeur et cette charge finalement. C'est pour ça que j'ai créé mon business. Et puis mes ambitions sont telles que la manière dont je veux vivre ma vie, bah, j'ai pas besoin de cette hyper-croissance, j'ai pas besoin d'une grosse équipe, j'ai pas besoin d'aller générer toujours plus en fait. Donc la leçon que j'ai retirée de tout ça et ce que j'ai réalisé, c'est que il y a vraiment différentes façons de vivre sa vie et différents modèles de business. Et bien que ce soit un modèle qui est efficace pour certaines et qu'il y en a qui se retrouvent un peu dans vraiment ce rôle de chef d'entreprise, de pilotage, d'équipe, etc. Mais moi, c'est pas du tout ma vision, en fait. Moi, je veux quelque chose vraiment de léger, de flexible, d'agile, de rentable. Moi, je suis très... mon goal, et d'ailleurs quand j'étais dans le corporate, j'étais déjà très focus sur la marge, la rentabilité en fait d'un projet, d'une offre, etc. Et c'est ça que je vise et c'est ça que je veux. Donc en fait, vous voyez, malgré moi, parce que je suis sûre que vous m'avez déjà entendu dire ça, bah à un moment donné, on peut se laisser happer par les sirènes d'autre chose, hein, et peut-être que c'est tout à fait normal. Moi, je regrette pas d'avoir testé, d'y avoir goûté, pour prendre ma décision ensuite de revenir et de me reconnecter à ce que je voulais vraiment quand j'ai créé mon entreprise. Donc mes actions concrètes par rapport à ce deuxième red flag que j'ai connu cette année, eh bien c'est que j'ai déjà coupé toutes les dépenses non essentielles. Je me suis séparée de absolument toutes les personnes avec qui je travaillais, en tout cas les personnes avec qui j'avais des factures récurrentes en fait, on va dire. Et j'ai décidé de repartir de zéro et de travailler seule en 2025. Alors quand je dis seule, évidemment je privilégierais des collaborations ponctuelles. Par exemple, je travaille régulièrement sur des missions ponctuelles avec ma super web designer Aurore Guettier. J'adore travailler avec elle. Donc ça, oui, je vais continuer, mais je veux plus en fait avoir une équipe permanente. Donc peut-être ce que ça peut générer comme déclic pour toi, c'est que déléguer finalement sans être aligné, c'est comme si tu ajoutais du poids à ton bateau, alors que toi, ce que tu veux, c'est avancer plus vite. Et puis pour moi, en fait, c'est aussi, ça peut être comme troquer sa liberté contre de la charge mentale et des coûts supplémentaires. Et vraiment, ça peut parfois... C'est pas sûr en fait que la délégation ça soit la réponse à tout. Ça peut aussi voilà, venir inviter un sentiment de lourdeur et un sentiment de perte de liberté. Donc encore une fois, ça dépend de tes objectifs, ça dépend du style de vie que tu veux, ça dépend du business model, de ton business model, ça, voilà, ça dépend de plein d'autres choses, c'est pas bien ou mal, mais ça peut ne pas forcément te convenir et ne pas forcément être la solution que tu crois à tes différentes problématiques ou même au bon développement de ton activité. Red flag 3, donc là c'est un red flag un petit peu plus personnel que j'ai vécu, c'est clairement... une grosse humiliation. Je crois que je me suis jamais sentie autant humiliée dans ma vie. Et c'est une humiliation donc lors de d'une recherche de logement que j'ai dû faire en urgence au début de l'été suite à ma séparation. L'histoire, c'est que j'ai quand même une trésorerie qui est très saine. J'ai quand même un chiffre d'affaires qui est solide. J'ai quand même un premier bilan qui court sur plus d'un an, qui est juste exceptionnel. J'ai des comptes en banque depuis toujours qui sont bien gérés. J'ai mis mon auto-entreprise au capital de ma SARL. Je pense quand même avoir une situation... je pensais avoir une bonne situation. Et j'ai été confrontée à une énorme... une situation hyper frustrante. J'ai eu besoin de relouer du coup un appartement en urgence et personne, aucune agence immobilière ne voulait me louer d'appartement avec mon dossier. Parce que je suis entrepreneur, parce que j'avais qu'un seul bilan comptable et donc impossible de louer un appartement à cause des garanties qui sont exigées par le système immobilier français, donc notamment la fameuse garantie des loyers impayés. Ça a été horrible, je me suis retrouvée, je ne vais pas dire à la rue, parce que voilà, je pense qu'il y a toujours des possibilités, mais il ne faut pas oublier que moi, j'habite à Nîmes, mais je ne connais pas grand monde à Nîmes. Alors évidemment, j'aurais pu aller taper à quelques portes, bien sûr, mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis quand même retrouvée à l'hôtel. J'ai dû payer l'hôtel, je me suis retrouvée à l'hôtel en urgence avec mon fils hein, au passage à targeter des hébergements temporaires parce que j'avais nulle part où aller et qu'on voulait pas me louer un logement. Et je trouve que c'est quand même c'est grave quoi. Je pense que vous m'écoutez, c'est que vous me suivez aussi, vous connaissez mon chiffre d'affaires, mon business, etc. Et jamais j'aurais imaginé me retrouver en fait dans une telle situation. Donc j'ai pris une vraie grosse claque émotionnelle. En soi, j'avais plus de chance. Finalement, j'aurais pu acheter un appartement avec mes liquidités. Sauf qu'évidemment, je voulais pas faire ça dans la précipitation, dans l'urgence. Évidemment aussi, l'achat d'un appartement, vous le savez, le temps de signer, passer, machin, il peut y avoir... 3-4 mois et puis il faut trouver le bien, donc malheureusement dans une situation d'urgence c'était pas possible d'acheter, mais en réalité j'avais du cash qui me permettait d'acheter un appartement, alors certes pas une grande villa hein, mais pour me loger, malgré ça en fait on voulait pas me donner l'opportunité de louer quoi, de me louer un appartement. Et donc un peu ce sentiment quoi, d'être perçu comme instable alors que j'avais une situation financière qui était irréprochable, d'être perçu comme on peut pas vous faire confiance, votre situation elle est précaire, voilà, c'est pas instable que je voulais dire, peut-être c'est le mot précaire. J'ai trouvé ça complètement ouf, je me suis pris une grosse claque. Alors j'ai quand même un petit conseil, si jamais vous êtes en CDI et que vous envisagez de devenir entrepreneur, soit achetez avant de devenir entrepreneur, soit assurez-vous de ne pas avoir envie de déménager du jour au lendemain quand vous allez devenir entrepreneur, parce que ça va être très compliqué. Ou alors il faut faire des faux. Mais en tout cas, si comme moi, vous êtes toujours bon élève et honnête, eh bien ça ne marche pas ou ça marche difficilement. J'imagine que ça doit être encore même plus dur dans certaines grandes villes. Donc la leçon que j'ai tirée de ça, c'est que en fait, cette expérience m'a rappelé que l'indépendance financière, quand on est notamment donc entrepreneur, hein, ça suffit pas en fait à partir du moment où tu dépends ou que tu es dans une économie ou un pays avec des systèmes rigides. Donc moi, de là, c'est clair que cette année, ma grande priorité, c'est de me recentrer sur mon projet immobilier 2025 parce que je ne veux plus jamais revivre cette situation. Mais aussi, ce que j'en retiens un petit peu comme déclic et ce que je veux te partager pour toi, c'est que c'est important en tant qu'entrepreneur parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent dans le business, qui se payent pas, qui font pas attention à leur trésor, qui s'occupent pas de la retraite, de tout ça. Mais en vrai, être entrepreneur, c'est aussi se bâtir une autonomie totale pour ne pas dépendre justement des systèmes économiques, alors surtout voilà, dans des pays comme la France, hein, c'est très compliqué. Donc c'est vraiment savoir investir son argent, savoir créer ses actifs, vraiment se protéger en fait de toutes ces contraintes externes au plus vite en réalité. Donc voilà, ça c'est vraiment... Alors évidemment, hein, si vous voulez acheter des Airbnb, ça va être différent parce que là, vous allez gérer un dossier selon le montant d'achat du truc pour ensuite avoir un loyer ou des revenus. Si vous avez un dossier bien bétonné, oui, on vous prêtera de l'argent dans ce cas-là. Là, je parle dans le cas d'investir pour son habitation principale en fait. Donc voilà pour ça, je serais vraiment... curieuse d'avoir tous vos retours sur cet épisode, sur tant la délégation que le suivi financier expert comptable, que ces complications qu'on peut avoir quand on est entrepreneur dans le système dans lequel on vit, notamment pour devenir propriétaire ou quoi, ou louer un appartement. Vraiment, n'hésitez pas à me partager vos expériences, peut-être vos craintes ou vos peurs aussi par rapport à ça. Ça me fera plaisir de vous lire. Red flag numéro 4. Donc là, je passe à la partie un peu plus business, dans le sens organisation, offre et création de contenu. Alors, c'est pas un gros red flag dans mon organisation. C'est plus, je pense, une petite piqûre de rappel qui m'a été envoyée. J'étais en train de m'imposer une organisation assez rigide. Alors, c'est pas tant professionnel en réalité. C'est plus dans tout ce que j'avais envie de faire à côté. En fait, c'est ma vie déborde de choses que j'ai envie de faire, de formations que j'ai envie de suivre, de séances de sport, d'aller faire des pas, de me faire un massage, de regarder des vidéos YouTube, d'avoir le temps de lire, de passer du temps avec mon fils, etc. Mais même toutes ces routines ou toutes ces choses par plaisir que j'ai envie de faire, en fait, c'est pas toujours possible de caser tout ça dans une journée. Et du coup, je commençais... Alors, ce que je ne faisais pas justement dans le business, je commençais à le faire pour mes petites routines quotidiennes et pour finalement tout mon temps libre. Je commençais à gérer et créer des créneaux. Vous savez, on dit souvent, il faut positionner dans son agenda. D'abord, c'est non négociable, c'est temps pour moi. Mais moi, c'était devenu un vrai Tetris, en fait, avec mes non négociables et mes temps pour moi. Donc du coup, je commençais à être dans quelque chose de hyper rigide, une organisation hyper rigide, pour faire mon sport, faire attention à ce que je mange, faire mes pas, lire, prendre un temps sans rien faire, etc. Donc là, à un moment donné, j'ai connu énormément de frustration à faire ça parce que je suis pas faite pour fonctionner comme ça et j'ai surtout perdu du plaisir dans des actions qui normalement, dans des choses qui normalement sont là pour justement que du plaisir, c'est-à-dire c'est du temps personnel, c'est du temps pour soi, c'est du temps pour se sentir bien, c'est des routines pour son bien-être, pour son équilibre, pour sa santé, etc. Donc j'ai quand même mon énergie qui est, j'ai accès à une grande énergie chaque jour, mais j'ai quand même une énergie fluctuante dans mes journées, dans mes semaines, dans mes mois, dans mon année, hein, je suis beaucoup le rythme des saisons pour ça. Et en fait, la leçon de ça, c'est que même sur l'aspect en fait des projets personnels, du temps pour soi, etc. Finalement, j'ai ma vie là qui débordait trop de vie et de choses de plaisir en fait, et je cherchais à trop organiser ça, alors que l'organisation, encore une fois, ça doit être une boussole, mais ça doit pas être un carcan. Donc, je suis revenue à ce que je fais de mieux, c'est-à-dire me fixer. Concernant le travail, j'ai pas trop de problèmes avec ça. En fait, c'était ça qui était le paradoxe ou le comble, finalement, c'est que je devenais stressée d'organiser mon temps libre, quoi. Enfin, et les choses dans lesquelles je prends le plus de plaisir. Donc là, enfin, il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai continué à me refocaliser sur trois tâches, max par jour pour mon job, mais ça, j'y arrive assez bien. Par contre, je fais quand même toujours attention à m'accorder presque deux fois plus de temps que prévu, parce que j'ai tendance à minimiser encore le temps que chaque tâche va me prendre. Mais surtout, je me suis autorisée, et ça me rappelle régulièrement à l'ordre quand même, hein, plus de flexibilité dans mes routines. Donc voilà, je sais que je dois aller au sport trois fois par semaine, mais c'est bon quoi, j'arrête de dire c'est telle heure à telle heure, tel jour, etc. Non, j'y vais un peu plus, à mon ressenti, à mon énergie, à mon besoin. De toute façon, je sais que, en fait, j'intègre le mouvement dans mes journées, j'intègre la joie, ce que j'ai envie de faire, etc. dans mes journées, mais j'arrête de vouloir aussi tout organiser ça. C'était un peu comme devenu une organisation trop rigide, même dans mon temps personnel, et j'ai voulu... Alors je sais que pour certaines personnes, c'est au contraire, il y a un besoin d'aller vers ça, hein, au début, mais moi finalement c'était devenu trop. Donc je me suis recollée à mon rythme naturel, qui est finalement mon meilleur allié, pour savoir ce que j'ai à faire quand, et donc je fais confiance en ça, et je me réveille pas le matin avec un truc déjà... où je sais exactement à quelle heure je dois aller au sport, à quelle heure je dois faire mes pas, à quelle heure je dois lire, à quelle heure je dois faire mon journaling, etc. Non. Voilà, je me réveille et je vois ce qui me met ce qui va me mettre en joie pour commencer ma journée. D'ailleurs, là aussi, je fais un lien avec les manifesteurs générateurs, mais c'est un gros pilier dans la manière d'organiser nos journées, hein. Commencer par la tâche la plus dure pour avaler le crapaud en premier, c'est pas du tout adapté à notre mode de fonctionnement, et peut-être d'ailleurs pas du tout adapté au tien non plus. Moi je préfère commencer mes journées avec quelque chose qui va me faire plaisir, quelque chose qui va me mettre en joie, pour ensuite justement être de bonnes dispositions pour aller faire du deep work sur d'autres sujets, ou peut-être affronter un projet ou une tâche plus difficile. Typiquement, si je commence à faire ma compta le jour où j'ai prévu de la faire dès la première heure, je suis pas sûre que ça marche. Vaut certainement mieux avant que j'aille faire un petit tour, faire des pas, prendre l'air, écouter un podcast, ça va m'inspirer, et ensuite je serai dans de meilleures dispositions pour faire ça. Tout comme tout ce qui est méthode Pomodoro par exemple, ça marche pas du tout pour moi. Moi j'ai besoin d'avoir des créneaux de deep focus de entre 1h30 et 2h30, 3h. Donc voilà, donc encore une fois, c'est une bonne piqûre de rappel pour se rappeler que notre rythme naturel, c'est finalement notre meilleur allié, notre rythme naturel et notre énergie, hein, bien sûr, pour organiser nos journées et réussir à faire ce qu'on a envie de faire. Mon red flag numéro 5, et ça j'en ai déjà un petit peu parlé dans le bilan, c'est que j'ai perdu du sens, de l'alignement avec mes offres en 2024. Alors pour Yogi Bizline, je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé, même dans certaines newsletters où je parlais de ce qui se passait. J'ai ressenti une lourdeur à continuer cette offre historique malgré son succès, hein. J'ai essayé de tout mettre en œuvre, hein, j'en ai parlé donc préalablement, de déléguer, de structurer, d'envisager de faire les choses autrement. J'ai tout essayé pour la faire durer, mais en fait, je vois bien que ça ne m'anime plus. Alors, c'est pas l'offre en elle-même, en réalité, qui m'anime plus, parce que son contenu, ce qui est à l'intérieur, ça m'anime toujours. Mais je n'ai plus envie de m'adresser spécifiquement aux profs de yoga. En fait, je n'ai plus d'inspiration. Je ne sais plus quoi dire aux profs de yoga. J'ai plus envie de créer du contenu spécifique pour les profs de yoga. J'ai envie de créer du contenu qui me ressemble à moi, entrepreneur, qui a fait en fait telle chose et telle chose dans son parcours professionnel jusqu'à maintenant. J'ai envie de partager ça. Et parfois, en fait, c'est trop éloigné de certaines situations de profs de yoga pour qu'elles puissent se reconnaître dans ma propre aventure d'entrepreneur. Et en fait, j'ai plus envie de m'ajuster à ça, d'avoir un discours spécifique pour cette cible-là. En fait, j'ai juste envie d'être moi, de partager ce que je fais et comment je peux aider à faire la même chose, et c'est tout. Donc, c'est plutôt là où en fait j'ai ressenti de la lourdeur et du désalignement, et c'est pour ça que je ne peux plus continuer Yogi Biz en l'état. Il faut dorénavant que j'élargisse ma cible. C'est le bon moment pour moi de le faire. Et voilà, c'est tout simplement pour ça que je décide de tourner la page sur cette aventure-là. Et puis, j'ai eu une deuxième mauvaise et bonne surprise. En réalité, j'ai démarré l'année donc en délivrant mon programme Business HD Expansion, qui est justement comment partir de son fonctionnement naturel et de sa propre nature, sa propre énergie, ses propres forces pour développer son business. J'ai pas forcément pris beaucoup de plaisir à créer cette offre-là, bizarrement, alors que je pensais que vraiment... Alors, j'ai changé ma manière de la construire, de la délivrer en cours de route, et finalement, voilà, j'ai réussi bien évidemment à aller jusqu'au bout et à créer un programme super. Mais en fait, une fois qu'il a été créé, je l'ai un peu mis de côté. Je l'ai laissé un peu retomber, en fait, ce programme. Et j'en ai reparlé lors du dernier lancement que j'ai fait, puisque du coup, ça faisait partie des bonus. Et là, en fait, en reparlant, mais j'ai vu finalement toute la puissance de ce programme. J'ai vu aussi la réaction des gens, en fait, qui étaient vachement intéressés par un programme qui pouvait leur permettre de développer leur business vraiment à 100% à partir de qui ils sont. Et puis aussi pour les personnes qui ont déjà un business, en fait, se remettre en question sur certaines choses, se re-challenger, remettre les choses à plat. Et plus, oser faire les choses aussi en fonction de qui on est, de comment on fonctionne, plutôt qu'en fonction de ce qu'on est censé faire. J'ai redécouvert vraiment la puissance de ce programme. En parlant, alors c'est pas étonnant là encore dans ma stratégie, dans mon fonctionnement naturel, c'est quand je parle des choses et qu'il y a des gens en face de moi et que je reçois du coup des retours, des questions ou quoi, que en fait il se passe quelque chose en moi et je sens en fait si c'est le bon truc sur lequel je dois aller ou pas du tout. Et là, ça a réveillé en moi des papillons dans le ventre de me dire non mais en fait cette offre elle est géniale et je comprends pas pourquoi je l'ai un peu laissée tomber et mise de côté dans l'année. Donc, probablement pas tout à fait sous cette formule-là, mais c'est probablement quelque chose qui reviendra, en tout cas, à ce jour. J'ai cette petite graine dans ma tête. La leçon de ça, c'est que quand une offre nous pèse, ou une ou plusieurs offres nous pèsent, c'est intéressant d'aller revisiter un petit peu son intention par rapport à cette offre-là. Parfois, il faudra savoir arrêter et passer à autre chose. Parfois, peut-être qu'il y a juste des choses à réajuster. Donc, ça peut être le format, ça peut être la manière dont on délivre, ça peut être la communication autour, ça peut être la promesse, ça peut être l'angle, ça peut être le message, ça peut être plein de choses. Mais c'est pas parce que on peut se sentir désaligné par rapport à notre offre ou en avoir marre de la délivrer ou autre, mais peut-être qu'elle a juste besoin d'être revisité, d'être mise à jour d'une autre manière, peut-être qu'elle est faite pour s'adresser à un autre public cible, peut-être que voilà. Donc il y a vraiment toutes ces choses à aller challenger quand on se sent peut-être un petit peu moins en adéquation avec une de nos offres. Donc typiquement, moi, les actions concrètes que je vais faire avec ça, hein, c'est probablement remettre HD Expansion, qui s'appellera plus HD Expansion, mais le remettre un petit peu au centre de mon activité avec une version revisitée. Et puis, c'est sûr aussi que j'ai pris dorénavant la décision de me recentrer sur des projets et des offres qui me font vibrer et qui partiront de moi, de mon expérience, de qui je suis, et non pas qui seront adaptées et conçues pour... Je dis pas quand je dis pour une cible spécifique, mais en tout cas, voilà, plus pour les profs de yoga en ce qui me concerne, je reste toujours persuadée qu'il faut une niche, qu'il faut être spécifique, etc. Hein, ça, je suis pas en train de re-challenger, de remettre en question ce point, mais je dis aussi que forcément, quand on a plusieurs années de business, quand on a construit une communauté, quand notre communauté elle a évolué avec nous, quand on a formé un certain nombre de personnes déjà dans notre communauté, etc. C'est vrai que par la suite, selon ce vers quoi on veut évoluer, on peut réélargir le spectre, on peut de nouveau être plus large, mais parce qu'on est déjà connu pour notre expertise, parce qu'on a déjà une communauté, donc on va pouvoir faire les choses différemment. Donc surtout ne pas comparer si je démarre aujourd'hui un business, ça sera pas les mêmes actions et je vais pas forcément communiquer ou me spécialiser ou me nicher de la même manière que quelqu'un qui a 5 ans, 7 ans, 10 ans de business. En tout cas, le déclic que je peux communiquer par rapport à ça, c'est que savoir s'arrêter ou savoir réajuster ses offres ou même son business model, etc., c'est aussi honorer des cycles naturels de notre business. Ça va pas être figé dans la matière. Voilà, notre business, il va évoluer avec nous, il a besoin d'évoluer. C'est pour ça aussi que je dis toujours attention à pas penser que ça sera mieux après, que après vous pourrez prendre du temps pour vous. D'ailleurs, faut que je fasse un audio télégramme là-dessus. Que ce sera plus facile, qu'une fois que vous allez faire ça, vous aurez... Enfin, en fait, voilà, il n'y a jamais de ligne d'arrivée parce que tout est tout le temps en perpétuel changement. Et donc, même si on peut construire hein, des choses qui vont travailler pour nous, et d'ailleurs, je vais y venir dans le dernier point avec la création de contenu, ben en fait, il faut aussi savoir qu'il y a des choses qui vont évoluer, qui vont changer et que ça sera nécessaire de laisser partir certaines choses, d'en réajuster d'autres et d'en créer aussi de nouvelles. Mon dernier red flag pour finir cet épisode, ça a été cette année donc l'irrégularité dans ma création de contenu. Ma production de contenu a été loin d'être régulière cette année et puis à vrai dire j'ai laissé assez sciemment hein, mes routines de création de contenu s'effriter. J'en avais tout à fait conscience et c'était... assez volontaire de ma part. Donc il y a eu beaucoup moins de publications sur Instagram, mais notamment parce que déjà je sentais cette non-envie, en fait, j'avais plus envie, voilà, de créer du contenu, encore une fois, spécifique pour les profs de yoga. Donc du coup, je savais plus quoi partager, j'avais plus envie de partager là-dessus. Donc j'ai aussi eu effectivement une cadence très irrégulière dans la sortie de mes épisodes de podcast et newsletter, mais toujours un peu pareil, hein, parce que du coup, voilà, j'étais plus... Je savais plus quoi raconter, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, ça m'animait plus. Par ailleurs, je crois que il y a quelque chose qui s'est développé en moi sur cette année, qui est un paradoxe intéressant, je pense, donc je vais vous le partager. Je suis pourtant, voilà, une créatrice de contenu, j'aime créer le contenu, je reconnais la puissance du contenu, j'aime bien évidemment Instagram... qui me permet de me faire connaître, qui m'a permis de trouver mes clients, qui me permet clairement de générer du chiffre d'affaires. Hein. Donc Instagram, c'est un vrai outil, un vrai levier pour mon business. Mais je suis aussi contre le fait de se faire voler son temps en permanence. Je déteste moi-même en fait consommer du snack content, donc du contenu rapide hein, sur Instagram. Et en fait, moi, je rêve d'un monde où les gens, ils sont pas sur leur téléphone en train de scroller, où mes clientes, elles arrêtent de passer je sais pas combien d'heures sur Instagram à consommer, mais plutôt que elles créent, qu'elles passent à l'action, qu'elles fassent des choses. Et j'ai plus envie, en fait, et je suis plus consciente de la force des contenus longs, de ce qu'on va apprendre dans un contenu long, de la relation qu'on crée avec notre audience dans un contenu long, de comment ça va nous nourrir, nous faire progresser, etc. Et donc, je crois que à un moment donné, j'ai comme eu une petite incohérence avec mes valeurs dans le fait de créer ce contenu un peu rapide à consommer sur Instagram. Et quand je dis rapide, je parle pas forcément des reels qui ont bien fonctionné là sur l'année 2024. Je parle de un peu tous les types de contenus sur Instagram. Je trouve que voilà, même un carrousel, même voilà, on slide, on scroll, on regarde. Enfin voilà, je parle vraiment un peu de tout ça. Et donc j'ai comme ressenti vraiment cette petite incohérence qui a commencé à pointer le bout de son nez et qui était en opposition avec mes valeurs. Et donc ça a challengé un petit peu ma régularité. Si on ajoute ça au fait que j'avais plus du tout envie de créer du contenu spécifique effectivement uniquement pour les profs de yoga ou de parler yoga, voilà, du coup je me suis un peu sentie, je pense, entre deux chaises. Mais je dirais que finalement, cette irrégularité, ça m'a aussi offert un enseignement précieux que je voulais vous partager. Déjà, c'est pas en publiant tous les jours sur Insta que j'avance, hein, ça je l'ai bien remarqué. Évidemment, mon business s'est pas effondré malgré cette baisse de rythme. Alors attention, hein, parce que, encore une fois, j'en suis à la 5e année de mon business, donc ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas, entre guillemets, pour moi aujourd'hui, n'est pas forcément la même chose pour toi si tu démarres, mais... j'ai quand même compris que parce que j'avais eu justement des bases solides en place, donc un positionnement clair, des contenus, justement depuis le début de mon activité, je fais des contenus longs, donc des contenus finalement qui sont evergreen et qui travaillent pour moi en continu. Rapidement, moi, j'ai mis en place des tunnels de vente qui sont performants, hein, parce que basés sur des choses qui ont fonctionné en live ou autre, donc avec des très bons taux de conversion. Et en fait, bah, j'ai réalisé que c'est grâce à ça, et d'ailleurs au passage c'est tout ce que je t'apprends à faire dans Yogi Bizline, que mon business ne s'est pas effondré alors que j'ai arrêté de publier des posts sur Instagram. Alors je mets quand même un petit bémol, j'étais quand même présente hein, en stories, donc certains d'entre vous ont peut-être l'impression que j'ai quand même été présente toute l'année. Voilà, je partage des choses en stories parce que c'est un des formats que j'aime le plus. En fait, il y a deux formats que j'aime, c'est l'audio, donc que ce soit le podcast, les audios type Telegram. À l'époque, j'avais Voxer, ensuite j'ai eu Telegram. Avec mes clientes d'ailleurs, j'aime bien WhatsApp pour ça aussi, pour les notes vocales. Et donc j'aime bien ça, j'aime le live et j'aime le côté justement spontané aussi de la story. C'est tout à fait naturel pour moi de partager des choses en story. Donc je dis pas que j'ai déserté, mais je dis qu'effectivement mon business il s'est pas effondré parce que j'ai pas fait des posts dans mon feed Instagram toute l'année en fait, d'accord ? Et parce que justement... j'ai les fondamentaux d'un business en ligne solide qui sont là depuis le début et qui, sur lesquels je peux finalement, j'ai pu cette année me reposer malgré cette irrégularité pardon, dans mon contenu. Donc ça m'a aussi permis de prendre conscience que ce que j'aime vraiment, c'est créer du contenu riche, c'est créer du contenu durable. Et donc par exemple, revenir au podcast, même si là, c'est un peu plus une série bilan 2024, etc. et moins... une série conseils business, enfin indirectement, il y a énormément de conseils dans cet épisode ou de réflexions, mais ça m'a rappelé en tout cas en revenant au podcast, là en refaisant mes propres épisodes, etc., combien ce format justement me permet de m'exprimer pleinement, mais aussi de connecter en profondeur avec vous, parce que j'ai toujours beaucoup, beaucoup de retours et d'échanges avec vous suite aux épisodes de podcast. Donc ma leçon, bah, c'est que d'avoir un système Evergreen solide, du contenu à la vente, hein, c'est-à-dire que j'ai du contenu Evergreen, ce que j'appelle mes contenus longs qui continuent à travailler pour moi. J'ai des tunnels de vente Evergreen. J'ai une offre qui est conçue stratégiquement pour vivre en Evergreen. Et ben, c'est quand même avoir ce système-là, c'est quand même bâtir un business qui peut permettre de tourner, même quand soi-même ou quand nous, quoi, on lève le pied finalement, et c'est ce qui s'est passé pour moi cette année. Donc mes actions concrètes cette année par rapport à ça, c'est continuer à créer du contenu, mais sans m'imposer de fréquence ou d'obligation quant au format. En fait, quand j'ai une idée que je souhaite partager, je me dis ok, sur quel support je la partage, story, Instagram, podcast, newsletter, voilà, c'est des outils que j'ai à ma disposition. Mais pour l'instant, ou en tout cas là, maintenant, j'ai pas envie de m'imposer une newsletter par semaine, X audio Telegram, X machin. Je vais être régulière dans le contenu que je vais vous proposer, mais sans forcément m'imposer de fréquence pour le moment, et aussi en priorisant des formats qui sont alignés avec mes valeurs. Donc plutôt, effectivement, des audios, des stories, et pourquoi pas des lives dans la suite de l'année. Et aussi continuer à m'appuyer du coup sur des stratégies evergreen. Alors pour l'instant, comme j'arrête Yogi Bizline et que j'ai plutôt un focus sur des immersions en individuel, j'en ai pas besoin, mais si je dois recréer une offre en ligne, et ça arrivera forcément, évidemment que moi je remettrai en place toutes ces stratégies evergreen. D'ailleurs, il y a de fortes chances que si je crée quelque chose, ça soit aussi autour de ça, bah parce que je me rends bien compte que ça permet de continuer à générer des résultats sans pression constante en fait de créer et de créer des choses nouvelles chaque jour. Donc finalement, je suis pas sûre que ce soit que ce soit la quantité de contenu qui compte et qu'il faille impérativement être présent dans un feed Instagram, mais par contre la qualité du contenu qu'on va créer, tout en pensant à sa capacité à travailler pour nous sur le long terme, ça, à mon sens, c'est beaucoup plus important. Voilà, j'arrive à la fin de cet épisode. Donc, bah, pourquoi finalement ces red flags, tous ces signaux d'alerte que j'ai connus cette année sont ma force pour 2025 ? Eh ben, déjà parce que j'ai compris que je voulais plus d'un business qui ne reflétait pas ce que je suis, qui je suis aujourd'hui. Et je veux pouvoir maintenant construire un business sur mon expérience, mon parcours, ce que j'ai mis en place, ce qui m'a permis d'arriver jusque-là. Et donc, sur tous ces aspects-là, bah, qui je peux aider et comment je peux vous aider à faire pareil finalement. J'ai aussi pris conscience que j'avais envie de revenir et de développer quelque chose qui restera simple. Donc là, j'ai pris la décision, voilà, de repartir d'une page blanche, mais avec l'intention de bâtir un business, encore une fois, qui restera minimaliste, parce que finalement, c'est ce que je veux, ce que je souhaite depuis le début, puis c'est aussi un peu ma philosophie de vie. Donc restons alignés à ça. C'est ma vision, et aussi un business qui restera aligné à mon énergie, bien évidemment, et qui sera même... voilà, créer selon comment je fonctionne, selon mes forces, ma nature profonde finalement. Et voilà, je choisis en tout cas cette paix-là pour moi, pour cette année. Je choisis aussi à nouveau de me concentrer sur la rentabilité du business et non pas forcément uniquement que sur le chiffre d'affaires. Donc voilà, je vous ai partagé hein, mes réflexions, les actions que je mettais en place pour 2025 par rapport à ces red flags et du coup ce que ça m'a appris et comment ça va avoir de l'impact sur mon année 2025. Et je serais curieuse de savoir bah, si vous aussi vous avez connu ces signaux d'alerte cette année, ce que vous en avez fait et comment du coup vous pouvez transformer ça en apprentissage pour avancer. En tout cas, n'hésitez pas à partager cet épisode en story que je vois si vous l'avez écouté, si ça vous a inspiré, si ça a fait un peu un effet miroir pour vous aussi. Et puis je termine en vous rappelant que si vous écoutez cet épisode le 20 et 21 janvier, il est encore temps de nous rejoindre dans Yogi Bizline pour avoir accès à ce programme complet à vie, hein, le programme qui a transformé de nombreuses carrières de profs de yoga qui sont maintenant connus et reconnus ou qui ont diversifié leurs revenus grâce à une offre en ligne, même si elles sont peut-être moins connues. C'est la dernière opportunité de pouvoir profiter de 12 séances de coaching personnalisé avec moi où je vais pouvoir vous faire mes feedbacks, mes retours, des relectures, des audits, etc. sur votre travail. Et puis aussi, c'est donc la dernière occasion de rejoindre la communauté YogiBiz, qui est une communauté de plus de 500 profs de yoga qui s'entraident entre eux et qui continueront de s'entraider même quand moi, j'interviendrai plus dans l'offre. Et c'est ça que je trouve génial. Hein. Voilà, on a toujours besoin d'un conseil pour une plateforme de réservation de cours, pour un matériel, un micro, pour se faire remplacer, pour trouver une business friend, pour échanger sur un petit problème technique, etc. Donc, c'est vraiment la force de cette communauté, de toutes ces personnes qui sont et qui ont suivi le programme Yogi Bizline et qui peuvent s'entraider. L'offre exclusive est valable donc uniquement jusqu'à mardi 21 janvier minuit. Après cette date, le programme ne sera donc plus jamais reproposé avec mon intervention en coaching collectif ni avec la communauté. Tous les détails sont en description de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, ça vous a été utile ce que je vous ai partagé aujourd'hui. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!